Il est 19h passé d'une minute sur Radio Campus Paris, c'est l'été et pour la première fois cette année, vous écoutez l'apéro.
Les nouvelles sont plutôt bonnes.
Le confinement est terminé.
Ouais, c'est la fête.
C'est du grand n'importe quoi.
C'est la convivialité qui prime.
C'est le chaos.
L'apéro, le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Après un hiver grippal et un printemps viral, voici venir enfin l'été, la saison où les gens sortent, boivent des verres en terrasse, partent en vacances et s'envoient pour les plus âgés d'entre eux des cartes postales racontant l'expérience unique vécue à Balaruc-les-Bains au milieu d'estivants aussi nombreux que dans une rame de la ligne 13 en heure de pointe pendant la grève. Mais l'été, c'est aussi la saison de ce que l'on appelle dans le jargon médiatique les marronniers, ces sujets abrutissants et rébarbatifs qui colmatent la peur du vide du stagiaire de chaîne info, soudain propulsé à la faveur des vacances, à la présentation de son premier JT national. Et c'est reparti pour 2 mois de reportages à n'en plus finir sur la chaleur, de sujets sur la canicule ou la baisse de la fréquentation touristique, d'enquêtes sur les monuments à ne surtout pas rater en cette période de vacances et d'éditoriaux pseudo-engagés à mi-chemin entre le mal c'est pas bien et les méchants ne sont pas gentils sur les marronniers de l'été. Dénoncer les marronniers étant en soi un marronnier, que reste-t-il aux chroniqueurs persuadés d'être à moitié pertinents dans ce monde de platitude et de banalité ? À dire peut-être qu'un marronnier ne fait de mal à personne, surtout lorsqu'il fait comme si de rien n'était. Comme si les 6 derniers mois n'avaient pas vu la mort de 4,5 millions de personnes, le confinement de la moitié de l'humanité et l'affichage au grand jour des pires vicissitudes de l'âme humaine. Cet été, il fait chaud, il fera chaud l'été prochain et froid l'hiver d'après. Cet été, les rédactions de France et de Navarre vous recommanderont d'aller voir le Mont-Saint-Michel et les plages de la Côte d'Azur. Cet été, on vantera les petits producteurs locaux qui survivent grâce au tourisme. On vous exhortera à consommer, français certes, mais à consommer surtout. Les marronniers, cette année, c'est la preuve que rien ne change jamais, ou en tout cas, pas si vite. Une pandémie mondiale est vite oubliée, le confinement vite refoulé, les décès vite effacés, les marronniers, eux, restent et reviendront tous les étés.
L'apéro sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'apéro pour la première fois de l'année, l'émission estivale de Radio Campus Paris. Je suis ravi de vous retrouver avec toute l'équipe autour de la table, derrière les platines en régie, en direct depuis les grands voisins dans le 14e qui nous font l'honneur d'accueillir aujourd'hui et demain au moins notre micro et nos studios. On est ensemble jusqu'à 20h ce soir et ce soir on déconfine nous aussi la radio, hein, c'est pas très original mais on le fait puisque nous vous proposons une émission un peu foutraque, certes un peu préparée, avec des bouts de ficelle, mais préparé quand même, mais qui ne ressemble à aucune autre ce soir. Pas de marronnier, pas de réchauffé, pas d'émission déjà vue, que du cousu main et du sur-mesure pour vous, chers auditeurs, qui nous avez tant manqué. Ce soir, on vous parle de la radio, hein, c'est un peu narcissique, mais on le fait quand même, et de ce qu'elle a appris de cette période complexe, où elle n'a pas manqué de montrer qu'elle avait encore une carte à jouer, encore un peu de ressources dans le paysage médiatique, surtout dans les moments difficiles. Et pour en discuter autour de la table, une kyrielle de chroniqueurs talentueux, la crème de la crème de Radio Campus Paris, Marine Gibert, productrice de l'émission, Thelma et Louise, bonsoir.
Salut, salut.
Léa Hurel qui nous rejoindra tout à l'heure et Kathleen Franck qui sont journalistes à la matinale de 19h de Radio Campus Paris.
Salut.
Antoine Guizou qui produit Euroscope à Radio Campus Paris.
Bonsoir.
Simon Marie qui fait plein de choses à Radio Campus Paris, on va pas y passer l'heure, mais qui fait notamment une fiction baptisée Sans Visage, des chroniques dans Chablis Hebdo, des incursions de la matinale. Bref, Simon, vous êtes le couteau suisse de cette radio.
Bonsoir.
Et enfin, si le dédoublement de personnalité avait un nom, ce serait le vôtre, Elliot Janon. Salut.
Bonsoir, Hugo Passard. Comment allez-vous ?
Bah, ça va. On viendrait en fin d'émission nous présenter un personnage de votre cru dont je ne doute pas qu'il ravira toutes les oreilles qu'il entendra.
Petits et grands.
Ouais, surtout les petits.
N'est-ce pas ?
Parlons radio, donc, chers chroniqueurs. Parlons radio. C'est le thème un peu narcissique que nous avons choisi pour démarrer cette saison estivale de Radio Campus Paris. Mais il nous a semblé que la radio avait quand même plutôt bien tiré son épingle du jeu pendant le confinement, si on nommait certes les invités au téléphone dans un train, les chiens qui aboient derrière les journalistes météo ou les enfants qui hurlent pendant un édito ciselé et comparatif sur la politique sanitaire du Brésil et des États-Unis. D'ailleurs, chers amis autour de la table, est-ce que vous avez écouté la radio pendant le confinement ? Marine ?
Oui, j'ai écouté un petit peu la radio pendant le confinement. J'ai aussi beaucoup suivi les journalistes radio de mon entourage et autres sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu comment s'adaptait ce métier. Et j'ai un petit coup de cœur pour les photos des journalistes radio sous leur couette, avec leur micro,
avec leur micro.
Ou sous un escabeau avec des draps tendus comme ça, et qui rend un son un peu bon, approximatif, mais en tout cas un peu poétique. Et j'ai bien aimé voir toutes ces petits bricolages.
De la poésie dans la radio.
Ouais.
Donc. vous, Elliot, la radio? Non, peut-être.
Si, à mort. Après de la radio musique, enfin, il y a de la musique. Pas d'actu, pas de news, etc. Parce que ça tournait c'est un peu en boucle pendant les deux mois, voilà. Et donc, ouais, une grosse flemme pour la découverte de musique, etc. Donc, je me suis laissé bercer par plusieurs stations de radio qui mettaient des musiques et j'ai été assez surpris, très agréablement surpris. J'ai découvert plein de super chansons.
Donc, vous aussi, un confinement radiophonique fort agréable.
Génial, ouais, complètement.
Kathleen?
Eh ben moi, c'est pareil, sauf que je me suis un petit peu concentrée sur mes zones de confort radiophoniques et j'ai beaucoup, beaucoup écouté Radio Campus, du coup, vu que je ne le faisais pas vraiment d'habitude, tu vois.
Donc, c'était l'occasion.
Désolée, mauvaise question. Les confessions, évidemment. Donc, ouais, ça m'a permis de voir un petit peu comment ça se passait pendant le confinement pour les journalistes de Radio Campus. Hein. Donc, voilà. Et évidemment
alors,
aussi...
Verdict d'une auditrice. Et bah
justement, ça fait justement partie de ma chronique tout à l'heure. J'ai pas envie de spoiler.
On va pas déflorer. Antoine, la radio. Radio Campus Paris toute la journée.
Exactement,
mais que ça, tout le temps.
Exactement. 24h/24.
Non,
un tout petit peu aussi, oui, mais pas plus que ça, finalement.
Il y en faut bien, quand même. Écoutez, sans plus, ces flagorneurs qui disent qu'ils ont écouté la radio. Voilà.
Il faut une exception à tout. Non, quelques podcasts, mais pas de radio en direct ou pas de radio sur la fréquence, en tout cas.
Et est-ce que vous avez trouvé justement que les radios, pendant ce confinement, elles avaient des programmes un peu nouveaux, un peu originaux? Comment vous avez trouvé cette radio en confinement poétique?
Oui, moi je pense qu'il y a un truc qui a changé dans le ton, même si la radio a toujours été un média de proximité et même d'intimité pour certaines. Je trouve qu'il y a un truc qui a changé dans le sens où on s'adressait aux gens de façon particulièrement bienveillante et sur un ton rassurant, avec bien sûr beaucoup de conseils pratiques pour le quotidien et tout. Moi, j'écoute beaucoup les radios d'info générales, France Info, France Inter. Donc, il y avait ce côté-là en plus de on essaye de prendre soin de vous et de vous guider dans ce grand bordel. Ça, j'ai trouvé ça cool parce que la radio, pour moi, peut le faire mieux que les autres médias parce qu'elle a justement ce rapport privilégié avec les auditeurs. De proximité, d'intimité, on se parle comme si on se connaissait, on est là le matin tôt, on est là le soir tard et tout. Et donc ça, j'ai trouvé que sur ce point-là, la radio a vraiment joué ce rôle, même pour les grosses radios d'infogénées, il y avait quand même ce petit côté, on est tous dans le même bateau, c'est plus joli. Et du coup, on essaye de vous accompagner au quotidien dans ça, dans les peurs, les angoisses, et les bonnes pratiques à adopter.
Kathleen, est-ce que la radio a été utile pendant le confinement?
Oui, complètement. Et puis, je trouve qu'il y a eu un repositionnement un peu sur le temps long. On a laissé plus la place à des formats qui sont traditionnellement pas trop traités en temps normal parce que instantanéité de l'information, tout ça. Et comme là, même les journalistes se retrouvaient coincés chez eux, au final, fallait inventer. Et il y a plein de choses qui sont créées justement là pendant le confinement.
Elliot, un mot sur... Est-ce que ça a été utile pour vous, la radio, d'écouter la radio pendant le confinement?
Alors oui, après, au début, du coup, il y a quand même pas mal de rediff. Oui, après, c'est pas non plus, enfin, pas plus que d'habitude, j'ai envie de vous dire, mais oui, après, voilà, il y a quand même beaucoup de rediff, puis c'est drôle, vers la fin du confinement, le retour en studio, justement, qui était assez drôle, parce que c'était une sorte d'énorme joie générale partagée par tous les professionnels de la radio qui revenaient en studio, qui étaient très heureux et qui le partageaient, c'était assez cool. C'est une ambiance assez chouette. Ça foutait la pêche.
Est-ce que c'est pas un peu... Alors là, je fais le rabat-joie, mais est-ce que c'est pas un peu de l'entre-soi? Parce que je suis d'accord avec vous tous de dire que la radio, c'est formidable parce qu'il y a eu cette inventivité, cette créativité, des choses que on voit aussi quand on fait de la radio, c'est-à-dire on voit les gens faire d'autres choses parce qu'on sait ce qu'ils font d'habitude et parce qu'on les connaît. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit côté entre soi? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là de se dire que nous, on le voit avec un œil positif parce qu'on a vu ce qu'il y avait avant, on connaissait un peu ce qu'il y avait avant, et on a vu ce qu'ils en ont fait. Est-ce que pour quelqu'un qui est un auditeur assidu ou pas de la radio, c'est... Il n'y a pas un petit côté entre soi, nombriliste, Antoine?
C'est une question
grande
assez...
Grande question, hein. Ça dénonce.
T'as deux minutes.
Je pense que, évidemment, je pense qu'il y en a qui s'en plaignent de revoir toujours les mêmes visages d'entendre les mêmes voix. Et moi, j'en fais partie parce que j'ai envie d'entendre d'autres voix. Donc, après, c'est ma faute aussi parce que, vu ce que j'ai dit avant, je ne suis pas vraiment... Je ne suis pas le plus grand fan ou du moins le plus grand admirateur de toutes les émissions qui sont proposées, mais Mais du coup, c'est moi qui vais regarder s'il n'y a pas autre chose qui est proposé, notamment sur les nouvelles plateformes sur Internet, et les podcasts qui sont rediffusés, ceux de France Inter notamment, ou alors des interviews beaucoup plus plates qui durent 2-3 heures, et quand elles sont intéressantes, je les écoute, du style Thinkerview. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un... Quand on revoit toujours les mêmes éditos, quand on entend les mêmes éditos et les mêmes voix, au bout d'un moment, c'est à l'auditeur de se faire une image assez complète et variée de tout le paysage radiophonique. Donc ça peut en agacer certains. Oui.
Alors ça en agace certains, ça en réjouit d'autres. On va continuer de parler de radio, peut-être après le déconfinement, parce que maintenant c'est bon le confinement. On en a parlé pendant des mois. On va passer à autre chose, juste après quelques notes de musique. Du groupe de Tempest, Radio Campus Paris. Il est 19h15 et vous écoutez l'apéro.
C'est tout l'été à 19h du lundi au jeudi sur le 93.9.
L'apéro sur Radio Campus Paris, on y parle radio et qui de mieux pour parler de radio que des gens qui font de la radio. Kathleen Franck, c'est à vous.
Salut Hugo, du coup, salut à tous et je suis super ravie de vous retrouver ce soir au Grand Voisin. Déjà parce que cet endroit dépote pas mal en termes d'initiatives associatives. Donc je suis vraiment ravie et puis aussi je tenais à le dire, je suis super admirative par rapport à tout ce qui a pu se passer sur la grille de Radio Campus Paris durant la période de confinement. Et très clairement, de mon côté, la dématérialisation des studios m'a littéralement tuée. Je me sens telle Denver, le dernier dinosaure. Je n'ai pas pris le cap du numérique et de la dématérialisation. Je suis restée coincée dans l'âge du tout réel. Bref, tout de même branchée sur le player de ma radio préférée, j'ai quand même suivi ce qui s'est passé. Et visiblement, le confinement a eu du bon, du très bon même, parce que des émissions assez atypiques et personnelles ont vu le jour sur notre antenne. Preuve que les moments de crise sont souvent les meilleurs pour se réinventer. Alors je vais lister brièvement, mais on a eu Jusqu'à Nouvel Ordre qui remplaçait le format de quotidienne de la matinale. On a eu également Confession Intime qui s'est passé tard, la nuit, et qui permettait à l'animateur ou l'animatrice de l'émission de solliciter très librement des bénévoles, des auditeurs sur les sujets qu'il ou elle souhaitait, donnant lieu parfois à des confessions bof intimes. Et puis on a eu un format un peu à part aussi à Campus pendant le confinement, et aussi pas très habituel pour la radio, puisqu'il s'agissait d'une sorte de reprise d'émission type télé-réalité qui s'appelle En Scred, donc une sorte de version exclusivement voix off, mais également un peu plus pictionarisée, puisqu'on a vu de beaux dessins peupler le site de Radio Campus. Bref, tout ça pour dire que si l'esprit Campus a su se bouger les fesses pendant ces quelques mois, précipitant malheureusement une mort quelque peu prématurée des dinosaures de mon espèce, eh bien, le monde de la radio a pu opérer également à une petite transformation pendant ce laps de temps anormal et dans bon nombre de secteurs du podcast. Alors, exemple 1, le confinement a visiblement fait changer d'idée certaines boîtes de production. Je vais notamment citer la boîte de production podcast Magellan, hein, qui signe pour le vent du changement dès mardi 7 juillet. L'application se redirige vers des contenus entièrement dédiés à l'accomplissement personnel. Alors, si vous faites partie des gens qui ont téléchargé l'application Petit Bambou ou Yoga Facile pendant le confinement, dites-vous que c'est probablement aussi le cas de l'ex-dirigeant de Radio France, Mathieu Gallet, qui est à la tête de ce projet. Donc, à voir donc ce qu'on nous concocte hein, sur cette application.
C'est dur, la décadence.
Exactement. Exemple 2, le confinement, ça a aussi perturbé la rédaction de RFI, hein, ou en tout cas la qualité de son sommeil, puisqu'une série de podcasts assez courts est notamment paru dès mars, et ce sont des pastilles sonores assez courtes, hein, de 2 minutes 30 environ. Bref, on y attend des membres de la rédaction de la radio, des intervenants divers et variés, qui racontent leurs rêves. Et le point commun, évidemment, c'est que chacun fait des rêves assez fous. Alors, si vous avez été torturé dans votre sommeil pendant le confinement et que vous-même faisiez des rêves chelous, allez y jeter une oreille, c'est plutôt bien. Je citerai un troisième et dernier exemple, confinement vôtre sur France Culture, évidemment. La radio s'est lancée dans l'interview d'artistes bloqués chez eux et en pleine introspection quant à leur processus créatif. C'est cool, c'est rafraîchissant et ça change des formats classiques d'entretien. Bref, entre la recherche de développement de soi, la thérapie par le rêve et les questionnements qu'on peut naturellement avoir à propos de son propre processus de création, vous avez largement de quoi faire cet été pour vous constituer de nouvelles sources d'inspiration radio. Je vous invite donc à vous replonger dans les podcasts du confinement et bien sûr à garder les oreilles grandes ouvertes sur les ondes FM dès juillet.
Merci beaucoup Kathleen pour cette revue un petit peu de ce qui s'est fait pendant le confinement. On franchit un peu une étape parce que maintenant c'est fini un peu le confinement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant que les gens sont revenus au tout réel et que les dinosaures en fait ne sont pas morts et sont revenus un peu dans cette phase un peu à moitié réelle, à moitié à distance. Qu'est-ce qu'on en tire comme leçon de ça? Qu'est-ce que la radio devient ou doit devenir après cette période de confinement? Grande question, petite réponse.
Moi, j'ai constaté quelque chose dont on parlait vite fait tout à l'heure, c'est que la radio, ça concerne aussi la télé, mais la radio notamment a dû effectivement se réinventer, ça on le disait, et il y a pour moi un effet bénéfique. Donc c'est une question de point de vue, mais quand même, je pense que c'est bénéfique. C'est qu'au lieu de précipiter des gens sur le terrain à droite à gauche sans aucune connaissance des territoires, etc., on a fait appel à des gens qui étaient déjà implantés sur ces territoires, qui avaient une connaissance de leur environnement, des spécificités économiques, sociales, etc., de là où ils vivaient. Et donc, ça a permis pour moi un traitement de l'info qui était déjà plus précis, plus fidèle à la réalité. Et ça a permis aussi de donner la parole à des gens qu'on n'entend pas nécessairement. Et on parlait tout à l'heure d'entre-soi. Et c'est vrai que la radio et les médias en général, il y a cette critique-là de l'entre-soi, du tout parisien, du tout bobo blanc. Voilà. Et donc, je pense que ça peut être cette espèce d'horizontalité, cette espèce de diversité des prises de parole, ça peut être une idée. Et il y a aussi eu cette espèce d'inclusion aussi des auditeurs et cette participation.
Mais justement, est-ce que cette interactivité qui est un peu née pendant le confinement, qui s'est développée un peu avec à la radio, est-ce que faut, selon vous, c'est l'avenir de la radio que de parler à ses auditeurs ou d'écouter ses auditeurs? Est-ce que la radio du futur, c'est celle qui parle un peu moins et écoute un peu plus?
Dans la mesure où ça reste un média, oui, après, elle doit quand même savoir évoluer aussi.
À la différence de la télé, pour le coup, qui, elle, est quand même très verticale.
Oui, complètement. Oui, je pense que pour évoluer, il faut écouter, de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne peut pas rester bloqué, quand bien même avec ou sans confinement, en fait, il suffit de... Oui, il faut évoluer de toute façon, donc faire attention à ce qui se passe ou ce qui peut se passer, en effet, à l'antenne, quoi, bien sûr.
Eh bien... C'est sur ces... Il faut rester attentif à ce qui se passe ou ce qui peut
transition.
Se passer
en fait.
Non, mais c'est... Si. Est-ce que c'est une passade au final? Est-ce que le confinement, on a redécouvert la radio, on s'est replié sur cet espace un peu d'échange et de d'intimité, de proximité? Est-ce que maintenant qu'on ressort, qu'on reprend les transports, qu'on retourne travailler, qu'on a retrouvé un semblant de vie d'avant, ça vous fait pleurer.
Je suis crispé, tendu.
Ouais. Est-ce que maintenant, est-ce que ça va pas disparaître comme c'était arrivé? Est-ce que c'est pas une sorte de pendant le confinement la radio a fait le job, mais maintenant retour à d'autres consommations plus contemporaines de médias, internet, la télé, enfin la télé non mais.
C'est surtout la notion de choix, je pense. Enfin, pendant le confinement, les gens n'avaient pas le choix, donc du coup, ils le faisaient. Après,
ça veut dire qu'on écoute la radio que quand on n'a pas le choix?
C'est pas ça, mais là, les gens l'ont plus écouté parce qu'en effet, il y avait soit la télé où en effet, il y avait les mêmes films qui passaient en boucle, qu'on connaît par cœur, à la radio, les chaînes d'actu qui passaient les mêmes infos pareil en boucle. Et après, voilà, en effet, là, on était québlo, donc il fallait écouter. Allez, après, maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui écoutent la radio. Sans forcément qu'il y ait un confinement. Je pense pas que ce soit... Voilà, il y a aussi beaucoup de médias, que ce soit Internet, téléphone, tout ça. Enfin, il y a plein de manières d'écouter une radio ou d'écouter des médias. Donc, je pense que ça reste de la notion de choix, je pense. C'était mon analyse.
Il y en a un qui a fait un choix de transition fort bien réussi. Je vous l'annonce d'ores et déjà. Qui a fait le choix de venir avec nous ce soir et qui se présente, qui est un jeune novice. Monsieur Doute, bonsoir.
Bonsoir tout le monde. Alors, la dernière émission de la saison, diront certains, on m'a dit que c'était la première de la grille d'été.
Question de point de vue.
Et pourtant, ma première chronique, oui, j'en ai souffert. Les dernières sont souvent mémorables, dira-t-on. Alors, vous ne vous y attendiez sûrement pas, je vous rassure, moi non plus. Alors, quoi qu'il en soit, il ne faut pas avoir peur du ridicule. C'est comme Agnès Buzyn en politique, il faut se lancer. Alors, comme c'est ma réelle première chronique, je te préviens, Hugo, tu vas devoir m'aider tout au long de la chronique pour m'interrompre ou me relancer. Voilà, je m'appelle Monsieur Doute, Jean Doute. J'aime le riz Uncle Ben's et les biscottes, la bienveillance ou la cruauté, mais surtout, les Vassis d'As.
Ouais, c'est ça. Raconte-nous peut-être un peu comment tu as l'idée de cette chronique.
Oui, d'accord. Alors, c'était il y a 3 jours. Selon Hugo, on m'a gentiment proposé. Selon moi, on m'a gentiment forcé
là, encore
à faire cette chronique.
Point de vue.
Ensuite, j'ai rencontré ma voisine, Madame Brichard, que je n'avais plus vue depuis un bout de temps à cause du coronavirus, parce qu'il faut savoir que je suis rentré chez mes parents.
C'est là qu'il faut être concis et précis.
D'accord. Ok. Oui, pardon. Donc, je disais
concis
que j'avais,
et précis.
J'avais rencontré ma voisine, Madame Brichard. On a à peine discuté, je me suis assis devant mon ordi, puis je l'ai allumé, l'ordi, hein, pas Madame Richard.
Oui, ça s'arrêtait là. Mais vous avez sûrement une blague, une anecdote, un calembour, que sais-je, un truc de ce genre-là.
Oui, je dois avoir quelques classiques en poche, au cas où, parce que je fais... regardez, je vais parler un peu allemand, ça fait toujours rire. Autobahnkirche, Currywurst, wir schlimmbessern wurde la...
Oui, décidément, c'est pas gagné pour cette première. Un peu de poésie, peut-être
D'accord, bon, trêve de bavarderie, trêve de conneries, tir au cul que je suis, je vais bien devoir me résoudre à ma destinée inéluctable, l'improvisation. Tout discours improvisé a été réécrit 3 fois, disait Churchill, 15 fois en l'occurrence. Mais avec l'arrivée de l'été, du beau temps et surtout au vu du refus de toutes mes candidatures pour l'année prochaine, j'ai été envahi d'une humeur cyclothymique, une gabegie sibylline. Un doute existentiel m'accapare et l'avenir me paralyse. Est-ce que Aurillac est une vraie ville ? Le bonheur est-il ? Les gens du voyage partent-ils réellement en vacances ? Oui, je le crois, que les Django Reinhardt, les Kenji Girac, les Famille Lopez, les gens du voyage partent et rentrent en vacances. Petit, je pensais que ces caravanes ne formaient qu'un nouveau camping qui n'avait pas encore sa recommandation dans le guide du routard. J'ai attendu pas mal d'années avant de m'apercevoir que cet emplacement ne recevrait jamais une note sur TripAdvisor. Et pour cause, ces campements ne sont pas des lieux de vacances. Les gens du voyage rentrent de vacances. Mais pour rentrer, il faut sortir. Pour rentrer, il faut partir. On n'a jamais autant besoin de vacances que lorsqu'on en revient, disait Anne Landers. Alors, parce qu'au fond, quid des vacances ? Les vacances sont-ils synonymes de déplacement ? Non. Nous pouvons nous déplacer sans faire le moindre kilomètre. Ne voyagez-vous pas en lisant Sylvain Tesson, Henri de Montfray ou encore Frédéric Lenoir ? Nous pouvons donc sortir et partir tout en restant dans notre imaginaire, les pieds sur terre immobiles et la tête dans les nuages, voyageant. Aucun voyage n'est aussi beau que ce dont on rêve, Paul Morant. Voyager, c'est découvrir d'autres cultures. Voyager, c'est d'abord un état d'esprit. Il est dans la nature des gens, du voyage, d'être impatient, affamé, passionné. Mon pote le gitan, c'est un gars curieux, chantait Yves Montand. Va carré, être sans, va caoum, le vide. Dans ce monde où le stress, l'individualisme et la pression sociale règnent, être en vacances signifie simplement revenir à l'essentiel, à la nature, à sa beauté, à son calme. Alors je m'adresse à vous, gens du voyage, touristes ordinaires, Paris plageurs, tout le monde fait de même, ne rien faire. William Shakespeare, pour terminer. Si l'on passait l'année entière en vacances, s'amuser serait aussi épuisant que travailler. Alors profitons-en.
Ouais, bon, là on est peut-être parti un petit peu trop dans l'exagération, mais maintenant on essaye de synthétiser tout ça, hein ?
D'accord, bah alors là, je dirais que la formule secrète pour partir en vacances sereinement, c'est parler allemand, draguer sa voisine. Bon, voilà. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Et puis... Si ça ne vous a pas plu, c'est comme Agnès Buzyn en politique. Si ça foire, il faut continuer.
Bravo, 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 bravo. Vous vous en êtes sorti comme un chef et je ne vous ai pas forcé à venir. Bravo, merci, Jean Doute ou Antoine, on ne sait pas, on ne sait pas trop. Un peu des deux. C'est une première dernière bien réussie. Et sur ces belles paroles, je crois qu'on peut écouter de la musique, de la vraie.
Touch the radio. Don't touch the radio.
The Virgins avec Prima Materia. Il est 19h32 et vous écoutez Radio Campus Paris.
L'apéro sur Radio Campus Paris.
Voilà. C'est l'été, c'est l'apéro, c'est Radio Campus Paris pour la première fois en vrai. Pas du tout, mais c'est.
Écoutez,
voilà. Il faut avec une vraie table.
C'est ça, exactement. Avec une vraie table qui bouge pour nos auditeurs qui ne nous voient pas, c'est le problème d'auditeurs. La table bouge, donc c'est une catastrophe.
Toi,
t'as pas de table, il n'y a pas de table. Oui, c'est un bout de bois. Bon, bref, on ne sait pas faire l'anatomie de. Bon, je sais qu'on a une chroniqueuse qui n'est pas prête, mais c'est pas pour ça qu'on va faire l'anatomie des tables. Bon. En ce moment, la transition, pas du tout.
Petite goutte de sueur. Légère goutte de sueur.
Légère.
Voir quelque chose, peut-être.
Alors, du trivial au presque tragique, en ce moment, il y a une grève à BFM TV. Aucune transition. On passe dans le vif du sujet. Et en fait, on se rend compte qu'avec le confinement, plus de pubs. Donc, les chaînes de télé privées, les chaînes de radio privées perdent leurs annonceurs, ont perdu leurs annonceurs, donc ont perdu leur financement et donc ont perdu la branche sur laquelle elles étaient assises. Et donc, les premières victimes sont à peu près toujours les mêmes, c'est-à-dire les gens qui bossaient dans des postes très précaires, en particulier les pigistes. Pas que, j'ai pas. Enfin, voilà, l'exemple qui me vient en tête, c'est les pigistes, mais il y a d'autres corps de métier qui sont aussi touchés. Est-ce que ce confinement et cette chute absolue de toute la pub, parce qu'il n'y avait plus lieu de faire de la pub alors que tout le monde est en train de crever, est-ce que ça a mis un coup au modèle économique de ces chaînes-là, de ces radios-là, et est-ce que ça a, dans un monde idéal, montrer à quel point le modèle des radios publiques et associatives, je prêche un peu pour ma paroisse, mais est-ce que ça a joué un rôle? Est-ce que ça montre pas aussi que dans les coups durs, il y en a qui tiennent et c'est pas ceux auxquels on pense, c'est-à-dire c'est pas les chaînes privées, c'est pas les chaînes commerciales.
Moi, je suis pas sûre que ce constat-là soit partagé par énormément de gens, mais et je suis assez pessimiste sur la remise en question des grandes chaînes, des grandes radios. On voit bien comment ça a fonctionné. Effectivement, ils ont été heurtés par la crise de plein fouet, et c'est terrible. Mais leur premier réflexe, on voit très bien ce que c'est de couper les financements, de plus envoyer personne sur le terrain, de jamais rappeler les pigistes, de même pas s'embarrasser d'écrire un mail pour expliquer la situation et pourquoi. Personne n'a plus de boulot et ce qui va être fait. Enfin, et là, la pub revient et tout repart comme avant, sans envoyer les gens sur le terrain, parce que j'ai pas mal de potes qui sont dans les médias et les gros événements reprennent, notamment dans le sport, et le mot d'ordre dans les grandes rédactions sportives qui sont en crise, dont RMC par exemple, et Canal+, et tout, c'est on n'envoie personne et on se démerde avec des bouts de ficelle, et tous ceux qui jusqu'ici avaient des revenus grâce à ça, ils peuvent...
Qu'est-ce que ça a révélé comme faille, en fait, dans l'organisation médiatique? Je n'aime pas trop le mot système, parce que c'est pas, là, ça aurait une connotation péjorative, mais ce n'est pas le but. Mais qu'est-ce que ça a révélé comme faille dans comment sont construits les médias aujourd'hui, ce confinement? Parce que là, on voit bien que ce n'est pas une situation... Enfin, déjà, il y avait quand même énormément de problèmes qui se posaient, notamment de précarité, évidemment, en particulier des journalistes, mais pas uniquement. Enfin, de tous ceux qui concourent à la formation de l'info et du divertissement. Qu'est-ce que ça a révélé comme faille, ce confinement, selon vous ?
Si on part du principe déjà que la publicité fragilise grandement une rédaction, c'est que donc elle dépend entièrement de ça et que donc du coup c'est une des causes du problème. Donc autre radio, télé, tout, on le voit aussi dans la presse écrite. Il y a littéralement des magazines qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Il y a des magazines mensuels qui sont en train de devenir des biannuels parce qu'il y a plus de sous. Donc, il y a un problème de financement, il y a un problème de structure qui est imperméable au changement. Et donc, en fait, si elles ne sont pas capables de changer, de s'adapter à ces moments de crise, c'est que quelque part, je parle pour BFM particulièrement,
mondiale,
c'est que si la pub est le mot d'ordre pour le fonctionnement de cette rédaction, c'est qu'il y a un gros problème.
C'est peut-être aussi qu'il faut trouver un nouveau moyen de financement. Je reviens sur ce qu'on disait avant avec Internet et les nouvelles plateformes. Et on voit que certaines émissions sont financées que par leurs auditeurs ou alors par des financements participatifs, etc. Donc il faut trouver peut-être un nouveau moyen de financer l'information, les médias. Et en tout cas, ça témoigne d'un certain désintérêt global pour les médias traditionnels, ou du moins ceux qui proposent une information en continu.
À voir.
Je n'ai pas la réponse.
Dans cette émission, d'où les transitions sont complètement bannies, hein, parce qu'on n'aime pas les transitions ici, Léa, Hurel, vous venez d'arriver en trompe dans ce... Vous n'avez pas de micro. Vous venez d'arriver en trompe dans ce, autour de ce plateau pour nous livrer une chronique qui parle de ce pourquoi on est là, c'est-à-dire l'apéro.
Oui, bah alors du coup, il y a un petit spoiler.
Et un petit spoiler.
Quel dommage.
Oh,
vous n'avez pas donné mon texte.
J'ai complètement déféré votre chronique.
C'est pas grave,
vous n'avez
tout,
pas donné
tout va bien se passer.
Tout va bien se passer.
Alors ce soir, mes très chers collègues, confrères et consoeurs radiophiles, je voulais continuer à parler avec vous de réjouissance et de petits plaisirs simples de la vie qui mettent du baume au cœur. Non, je ne parle pas de petits chiens tout mignons, ni de la ligne 13 lorsqu'elle est déserte, ni même des blagues sur Manuel Valls. Excellente, par ailleurs. Alors, vous voulez peut-être un indice ? Ouais, il a spoilé, mais...
On veut un indice.
Si je vous dis le nom de l'émission, et là vous me répondez, oh l'apéro, waouh, incroyable, vraiment acteur studio. Et oui, je veux bien entendu parler de l'alcool en été et en collectivité. Alors mieux connu sous le doux nom d'apéritif ou apéro pour les intimes, c'est ce moment de partage dont l'heure de départ est floue. Oui, c'est flou, hein. On va pas se mentir. En fait, ça varie pas mal selon les régions et surtout selon les us et coutumes de celles et ceux qui le pratiquent. Ça peut aussi bien être...
11h30, j'entends là, à ma gauche.
Aussi bien être 18h, c'est ça, 18h comme 10h du matin pour les fois les plus entraînées.
Ou 18h du matin.
Ça, c'est très fort, 18h du matin. Alors, j'ai fait mon travail de journaliste d'investigation. Je suis allée tout d'abord voir la définition qu'en donne le Larousse. L'apéro serait donc une boisson, le plus souvent alcoolisée, prise avant le repas. C'est vrai que c'est étroitement lié à l'alcool, cette histoire. Encore un coup des lobbies, vous allez me dire, et vous aurez sûrement raison. Bon, l'alcool reste une drogue légale, même si elle est banalisée en France. Vous devez en consommer à vos risques et périls. Et je vais arrêter là mon monologue de prévention, parce que je ne suis pas votre mère. Mais du coup, quand on est entre potes ou en famille, en été, bien hydraté, les clés de la voiture ne sont pas à portée de main, avouez, c'est quand même l'un des meilleurs moments de la saison. Vous êtes tous d'accord avec moi. Et pour poursuivre mon étude à caractère très scientifique, j'ai demandé à mes meilleurs copains et copines, hier, justement, au cours d'un apéro, ce que ça signifiait pour eux l'apéro et quels étaient, selon eux, les indispensables pour passer un bon moment, un moment qualitatif. Mon ami Nicolas s'est lancé. Il a tenté de situer temporellement ce moment en disant « l'apéro, c'est quand tu sors du travail ». Ça, c'est sûr que c'est mieux après qu'avant, parce que pour avoir testé, être ivre au travail te fait certes croire que tu passes un meilleur moment, mais par contre, si les autres autour de toi sont super sobres, ils ne voient pas les choses exactement comme toi. Ensuite, il y a Baptiste qui a renchéri en disant, je cite, « Tout le monde sait que c'est à 16h que ça démarre, l'heure où les enfants vont manger des madeleines. » C'est pas mal, je trouve. Vous en pensez quoi ? J'ai pas d'enfants, mais moi, ça me paraît super logique comme phrase en soi. Mais Cyril et Luna ont alors relevé une question très pertinente. Qu'en est-il de l'apéro avant le déjeuner ? Et oui, aussi appelé le rosé pleine chaleur, il se consomme généralement vers 12h-13h. Il faut pas l'oublier, celui-là, c'est important. Et en évoquant le rosé et le vin de manière générale avec mes potes, qui sont tous dans leur vingtaine, je me suis aperçue qu'apparemment, le vin n'était pas chez eux la boisson emblématique de l'apéro. Expression de stupeur sur le visage de mes collègues face à moi. Je vous le dis parce que c'est pas très radiophonique. Écoutez, on n'a peut-être pas les mêmes potes, je veux bien l'entendre, mais corrigez-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'il existe quand même un vrai gap, une vraie différence générationnelle concernant l'alcool de prédilection de l'apéro estival. Oui, Hugo, je veux parler des vrais sujets qui préoccupent les Français.
Je le vois.
Donc, c'est-à-dire que les jeunes adultes préfèrent consommer de la bière plutôt que du rosé. En tout cas, de manière unanime, c'est ce que tous mes potes m'ont assuré. Ils m'ont dit si on ne devait en garder qu'un d'alcool, ce serait la bière. Ça te disait de Koh-Lanta ou de maillon faible, ce sondage. Et la principale raison que l'on m'a donnée hier soir, c'était cette explication très imagée, je cite, de la goutte de condensation qui coule sur la bouteille en verre avec un petit travelling. C'est vrai que l'image est très sympa, elle est synonyme de fraîcheur et d'amertume, et de musique en arrière-fond d'un coucher de soleil, bref, c'est synonyme de bonheur. Donc je terminerai cette chronique pas du tout objective, qui aura, j'en suis désolée, peut-être un peu ennuyée, les personnes très fortes psychologiquement qui ne boivent pas d'alcool. Je terminerai par une phrase de mon pote Guilin, qui ravira les plus relativistes d'entre vous. Chaque alcool, finalement, a son temps et son heure.
Waouh.
On a presque envie de dire « Ricard is the new Madeleine », finalement.
C'est ça que vous vouliez dire en plein milieu.
Oui, complètement. Mais j'ai retenu ce démon qui était en...
Bravo. Ça y est. L'été est déconfiné. Je répéterai tout jusqu'à ce que j'ai trouvé une transition. Hein. Les Françaises et Français.
Vous voulez l'heure ?
Non, je m'en fous de l'heure. On s'en fout. Voilà, tout le monde est en vacances. Il y a de l'heure pour personne. Bref, les Françaises et les Français peuvent partir en vacances. Je suis moi-même pas en vacances. Malgré les incertitudes qu'il y a eu liées à l'épidémie de Covid-19, je vais arriver à dire ce lancement jusqu'au bout. Et il n'y a pas que les vacanciers qui n'étaient pas sûrs de pouvoir profiter des mois de juillet et août. Il y a aussi Fort Boyard, comme en témoigne la chronique de l'ami Simon Marie.
Elle vous avait manqué, moi pas. Cette vieille bâtisse voisine de l'île d'Aix et de l'île de Léron accueille pour la 31e fois la chasse au trésor estivale du service public, mais masquée. C'est ce que dévoilent les premières photos officielles de cette saison 2020 des personnalités. Qu'on dit que c'est des personnalités, mais personne ne les connaît, mais que comme ils passent sur M6, ils sont plus connus qu'Hugo Bassard, et c'est bien dommage. Des personnalités, disais-je, qui portent des masques en pleine collecte dans la salle du trésor. Le problème, c'est que ce n'est pas le plus gros problème de ce programme. Un petit rappel du principe de Fort Boyard. Les candidats doivent récupérer des clés pour ouvrir la salle du trésor. Ils doivent ensuite récupérer des mots indices qui doivent mener à un mot code pour libérer le trésor. Récupérer du temps supplémentaire dans la salle du trésor en défiant les maîtres des jeux qui sont devenus les maîtres du temps, qui sont devenus les maîtres des ténèbres, qui sont devenus les maîtres, qui sont redevenus les maîtres des ténèbres et qui sont redevenus les maîtres du temps après, avant de récolter le maximum de Boyard et de se faire bouffer par des tigres. Le principe même du jeu n'a pas trop changé depuis 31 ans, mais c'est sa forme qui a changé. Elle a changé jusqu'à ce que Fort Boyard perde le charme cheap, qu'on a tous un petit peu apprécié. Nous autres, allez avouer, allez-y. Eliott Janon.
Oui, j'avoue Simon Marie, j'avoue.
Il a plaidé coupable. Fort Boyard a un peu perdu le charme cheap qu'on a tous apprécié, nous autres qui sommes majeurs aujourd'hui. En effet, jusqu'à à peu près 2010, les candidats évoluaient dans le fort. Chaque cellule qui abritait une épreuve pour récupérer des clés était juste assez rénovée pour que le plafond ne s'effondre pas sous Bruno Guillon ou Élodie Gossuin. Et à partir de 2011, les cellules ont commencé à accueillir des univers. Jungle, fête foraine, le numérique, la banque, une ketcherie, le jurassique, Alice au pays des merveilles, et tout est vrai. Ils ont même rajouté des pierres devant des pierres. Voilà, et ça,
yes.
Et ça, c'est très fort. Bref, Fort Boyard était un plateau de télévision, il est devenu un vulgaire studio. Cette tire à balle réelle. Le tout pour
ça dénonce.
Ah ouais, non, clairement. Le Macron démission, le tout pour un résultat surmonté, surfantasmé, pas drôle.
Vous aussi, vous êtes finalement. Bon en transition. Hein.
Mais complètement. Autant dire donc que des masques rajoutés sur des visages ne vont pas enlever plus de magie qui a déjà été enlevée à ce jeu. Malgré tout, par nostalgie pour ces samedis soirs qu'on a tous passés devant les pectoraux d'Olivier Mine ou La Boule, je ne me souviens plus, quoiqu'il est mort maintenant, je vous propose de découvrir en exclusivité pour Radio Campus Paris le premier numéro de ce Fort Boyard 2020. Soyez les bienvenus à Fort Boyard. Ça y est, après plusieurs mois de doute, les maîtres du temps et moi-même avons désinfecté le fort des miasmes des tigres et autres serpents pour accueillir une équipe de taille. Ce soir, nous accueillons Hugo, Léa, Elliot, Marine et Kathleen, toutes et tous membres de l'association Radio Campus Paris. On va leur demander déjà à quoi cette association sert et surtout leur souhaiter bonne chance. Mais les voilà qui arrivent sur le fort. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Vous allez bien? Et puis bonsoir surtout à Hugo, le capitaine de l'équipe. Vous allez bien, Hugo?
Ça va.
Oui, et le gong résonne, ça veut dire que le couvre-feu à Cusco au Pérou a été levé à l'heure qu'il est, mais surtout que l'aventure démarre, on suit Masque Partout qui va nous emmener à la première épreuve.
Ils l'ont vraiment appelé comme ça.
Pour sortir de la crise sanitaire, l'équipe doit déverrouiller l'immunité collective. 7 clés sont nécessaires, elles s'obtiennent en réussissant des épreuves scientifiques ou en répondant correctement aux énigmes du docteur Raoult. Mais attention, si un candidat ne sort pas de l'épreuve sans s'être mis du gel hydroalcoolique, il est fait confiner et envoyé dans les cellules de réanimation de Fort Boyard. Nous voici maintenant devant la première épreuve. Et pour commencer ce cru 2020 comme il se doit, il nous fallait un candidat dont la carrure allait marquer les esprits, une carrure présidentielle, soyons fous, puisque c'est Hugo qui va s'approcher de moi, mais pas trop non plus. Hein, ça va, Hugo?
Ça va, ça va.
Et tu as bien raison. Hein. L'épreuve qui t'attend derrière cette porte... L'épreuve qui t'attend derrière cette porte vient de pas trop près quand même. Et l'épreuve dite du tapis roulant, un classique parmi les classiques, un tapis roulant sur lequel tu dois monter pour récupérer des seaux accrochés au plafond, des seaux que tu vas devoir décrocher du plafond pour les verser dans un tuyau au bout du tapis roulant pour faire monter la clé qui est accrochée à un flotteur dans le tuyau. Jusque là, c'est clair.
Comme un regard.
Oui, mais fais attention, tu es à 99 cm de moi là. La particularité de cette épreuve, c'est que cette année, tu n'as pas le droit de toucher les seaux ni la clé. Limpide ?
Comme de l'eau de roche.
Très bien, Hugo, est-ce que tu es prêt ?
Je vais tâcher.
Approche-toi donc de la porte, mais pas trop non plus. 3, 2, 1... Et on n'a pas le droit de toucher la porte. Merci d'avoir été avec nous. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus...
Ben voilà, depuis le temps que je voulais rencontrer Passepartout.
Bon, Passepartout.
Ma masque partout, c'est ça. Ah non, mais franchement, ils ont peur de rien.
C'est moi, ça.
Rendons à César ce qui est à César.
C'est ce que je disais.
Ce petit slapping de basse sur le bed de Fort Boyard, je suis un très grand fan.
C'est une musique de, c'était une musique qu'il y a eu dans Fort Boyard.
Incroyable. En parlant de musique.
Oh bah.
Musique.
Oh bah
non. Nothing Returns, The Moon Sunny sur Radio Campus Paris, il est 19h49.
L'apéro, c'est tout l'été, à 19h, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
Et cette première émission de l'apéro ne pouvait pas ne pas parler de nous-mêmes. Hein, on est dans le narcissisme jusqu'au bout.
Inception.
Et exactement, et on accueille Christophe Dacuna, qui est directeur des programmes de Radio Campus Paris, pour nous parler de la grille d'été de Radio Campus Paris.
Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir, et merci Christophe. Pour ces francs moments de rigolade. C'était une très belle émission, je suis très fier de vous.
Merci, merci patron. Qu'est-ce qu'on écoute cet été sur Radio Campus Paris ?
Eh ben, on écoute plein de choses. On va déjà écouter la fresh list de l'été, parce que du coup, il y a eu la réunion de la programmation qui a eu lieu en début de semaine. Du coup, elle va être renouvelée et assez riche. Du coup, elle va nous accompagner tout l'été jusqu'à fin septembre. Déjà, la grille d'été à Campus Paris, c'est juillet, août, septembre, donc elle s'étend un petit peu. Le temps qu'on recrute...
Septembre 2021, bien sûr.
Effectivement. Donc voilà, le temps qu'on recrute de nouvelles énergies et qu'on forme les nouveaux piou-piou, comme on les appelle. Il va y avoir aussi... on va mettre en avant... En fait, on avait lancé un tremplin musical qui a été un peu étouffé dans l'œuf.
Petit ange parti trop tôt.
Exactement. Mais quand même, juste avant l'annonce du confinement, on avait sélectionné 12 personnes qui étaient nos demi-finalistes et qui sont des projets super qu'on va mettre en avant tout l'été à l'antenne. Voilà, vous allez pouvoir découvrir ces artistes. Il y a une playlist et tout ça. On va bientôt communiquer dessus. Donc vous serez au courant de ces nouveaux talents. Donc voilà pour le côté musical. Et puis après, aussi plein d'émissions musicales qui continuent et de nouvelles.
De nouvelles émissions.
Effectivement, on est en train de créer
des transitions.
T'as vu l'alchimie ?
Ah ouais, franchement, j'ai saisi la balle au bon avec une agilité formidable.
Eh bien oui, alors il y a des programmes qui font leur retour, comme je parlais des gens autour de la table, comme les tutos de Thelma et Louise qui reviennent en force.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux en parler un petit peu très rapidement ?
Oui, les tutos, c'est un petit format court de 5 minutes qui parle de féminisme, bien sûr, comme toujours avec la team Thelma et Louise. Et l'idée, c'est de donner des petites clés, des petits conseils, toujours dans l'humour bien sûr, pour faire face à certains types de comportements sexistes, et c'est un peu teinté d'été, de summer, de body positive, de plein de trucs cool, et pour aider les féministes en herbe à réagir face à tous ces petits comportements, ces petites agressions chiantes auxquelles on peut être confronté l'été. Voilà.
C'est à la fois très drôle et très éducatif, du coup. Et puis en plus, c'est comme des petits bonbons, ça se mange sans fin. On va voir aussi un peu cet été du côté de nos copains, copines des autres Radio Campus, parce que l'idée de l'été, c'est aussi de montrer ce qu'on fait, ce que font les autres. Du coup, on va voir notamment des programmes de nos copains de chez Radio Parleur, qui vont faire une émission, une hebdomadaire qui s'appelle Penser les luttes, qu'on va diffuser tout l'été. Parlez-moi d'une ville de Campus FM, ça c'est nos amis de Toulouse, de chez Campus Saint-Etienne, on va passer les minutes des mineurs, le retour de Vénus de CELAB, qui est la radio campus de Rennes, et on va même au-delà de l'Atlantique, car on va passer derrière le sample, qui est une émission qui décortique les samples dans la musique, dans un peu tous les styles de musique, de la radio qui est la radio de l'UQAM à Montréal, qui s'appelle choc.ca. Donc on est internationaux. Voilà. Comme on ne peut pas trop voyager, enfin si on peut, mais bon, on va éviter pour éviter de... Voilà,
de miasmer.
Voilà, de faire des clusters. c'est le mot. Et ben voilà, on vous fait voyager sur les ondes et dans nos belles régions et aussi avec nos amis francophones.
Chez vous en région. Oh, formidable.
Jean-Pierre Pernaut d'Radio Campus Paris, quoi. C'est incroyable. Oui.
Merci beaucoup, Christophe, de nous avoir présenté tous ces beaux programmes qui ne donnent qu'envie d'écouter Radio Campus Paris.
Avec
vous
plaisir.
L'avez fait en confinement. Faites-le après le confinement. Faites-le cet été. Et pour clore cette émission. Pour clore cette émission, une bombe atomique, que dis-je ?
Oula,
aujourd'hui, la culture bat de l'aile, on l'a dit, lui respire à plein poumon, car bientôt les salles obscures vont bientôt rouvrir, elles ont rouvert, je ne sais plus parler. Et voici, pour parler cinéma, un des plus grands, sinon le plus grand critique musical qui aujourd'hui nous parle de cinéma, Philippe Créneau, bonjour.
Que c'est bon, oh l'enfoiré, c'est pas essuyer les pieds en rentrant celle-là, oh, le pif!
Oui, sacré rhume, hein, Philippe, il fait froid, hein?
Ah, t'as raison, mon con, putain, j'ai tellement de poudreuse dans le pif que je pourrais me porter volontaire pour accueillir les JO d'hiver, ah, oh, le con!
Ah, oui, oui.
Et t'aurais pas du Skype par hasard?
On est en direct, là, Philippe.
En direct? À quel propos?
À propos que vous deviez nous parler cinéma aujourd'hui, Philippe.
Ah, mais oui, c'est vous, Passard, Hugo Passard.
Voilà.
Ah, mais oui, mais on se dit rien, ou sinon, j'ai cru que j'étais encore à l'Anus Palladium pour fêter la réouverture.
Oui, alors justement, parlons cinéma, mais peut-être un cinéma un petit peu plus familial.
Alors, mon pote, si pour toi ça, c'est pas du cinéma familial, change de famille, direct. Sans déconner, ça peut régler le conflit israélo-palestinien, cette histoire, c'est énorme! Vous savez, Passard, permettez que je m'appelle pas ça. De toute façon, je m'en fous. Ah ouais.
Pardon.
Non, mais bah ouais, en fait, hier, je t'explique. Je te raconte. J'étais avec des copains critiques, en fait. On traînait vers Galpi au niveau du Tromé Chaublanc, tu vois. Jusque-là, je te fais pas de dessin. C'est que le but de la pintasse à 4 ronds, Goupus, évidemment. Et donc, une fois bien rond, on se dit qu'on va se faire une petite toile. Et là, coup de bol. Le cinéma clandé mythique de Paname, l'Anus Palladium. On était comme des oufs. Il était ouvert en plein. Ouais, des sièges tout secs, un sol qui colle pas et des Kleenex tout neufs. Ah non, grand luxe. Et donc, ouais, niveau des films, là, t'as vraiment à boire et à manger. On a commencé par un marathon de la fameuse réalisatrice Sofia Coppola avec sa trilogie Hommage à la culture bretonne. Bouffe-moi le bulot sur la plage de Poinec, tu me diras si t'as des huîtres. Alors, oh, truc énorme, je te dis. Moi, choisis ton vinaigre, je te donne de la salade. On a bouffé plus de 8 heures, des gros plans sur des verres. Mais comac, des trucs incroyables à t'en faire chialer un âne. Et donc, alors, dans le troisième opus, il y a un acteur savoyard, Henri Chocobour au fond. Oh, le master. À ce stade-là, je te jure, c'est plus du porno, c'est de la gastronomie. Je te jure, tout dans la contemplation, Sophia. Je veux dire, on ne devient pas la reine du film pour adulte pour rien. Et donc, bon, après le marathon, on a attaqué plus léger, surtout parce qu'il était 7h et qu'on était en pleine descente. Alors, du coup, on s'est mis un petit classique. Inoubliable. Comment oublier le grand réalisateur de courts-métrages porno, le roi des précoces, le grand irakien Igor Tadjajoui. Un délire. Les minutes les plus intenses de toute ma vie, quelque chose d'incroyable. On voit une photographie magnifique et surtout un scénario sensible qui va chercher dans l'âme et dans le subconscient profond des spé... 2 secondes. un instant, je me suis vraiment fait peur. Donc ouais, 1 minute 30, ça dure. Mais c'est dur, hein. Compris ? Bon, alors, ok, attendez, parce que je commence à m'y perdre dans toutes ces bêtises. La réouverture des salles de cinéma porno, c'est aussi l'occasion de revoir des grands classiques comme La Petite Susan dans la scénique. Incroyable. Attends, je te pitch. Écoute, on est en 2002, et là, il y a un mec qui s'est dit quoi ? Il s'est dit Charlie Ingalls, un boulard. Banco, mais c'est fou. Même le perchman, il en peut plus. Une scène sur deux, il n'y a pas de son. C'est un truc de malade mental. Le réalisateur, premier rouquin de la profession, a exercé dans sa bagnole. Parce qu'il était taxi, le mec, à l'époque. Du coup, il s'est fait appeler Roubignol par rapport à son signe astrologique. L'arrêt. Et attends, attends, parce qu'il y a un déglingo, là, j'ai vu. Il s'est attaqué au monde du transport en commun. Avec un premier métrage qui prend place dans un TGV, ça va s'appeler SM Sif. C'est le grand réalisateur Moussa Moussa, un ancien acteur qui avait la particularité d'y aller si fort qu'il faisait mousser tous ses partenaires. Mais homme comme femme, hein, on l'appelait le javeliseur. Et puis bon, après, il a fait un petit passage par le porno artistique, notamment par le porno pictural. Ça, c'est absolument magnifique. C'est, en gros, je te raconte, en gros, t'as un acteur ou une actrice collé qui fait le mur, et ensuite, il y a acteur avec tout ce qui passe, et bon, qui donne de leur expertise, quoi. Hein, c'est un truc de malade, c'est un chantier. Le premier s'appelait Le Roi Bourrin, après, on a eu le préquel Casse tout là-bas, et le séquel Monsieur Bourrinage. Eh, hey, la scène dans le jardin de Versailles, mon pote, on est quand même plus sur de la charcute que du jardinage. Un truc de malade mental. En tout cas, Passer, moi, tout ça pour vous dire que j'espère que ça ira mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que le cinéma incompris reste un art, comme l'adaptation d'ailleurs pornographique de L'Amant de Marguerite Duras par Irisa Kovatakiki.
Que dire?
On va rendre l'antenne.
On va rendre l'antenne puisque c'est déjà la fin de cette première émission de l'été sur Radio Campus Paris. Et avant de se quitter, un grand merci à toute l'équipe de Radio Campus Paris. Merci Simon Marie, Marine Gibert, Elie Janon, Léa Hurel, Kathleen Franck, Antoine Guizou d'avoir débattu et chroniqué dans cette émission. Coordination Christophe Dacuna, réalisation Marc Gopage, équipe technique de Radio Campus Paris, Jonathan Carras, Michael Bernard, Elodie Hervier. Merci beaucoup à l'équipe des Grands Voisins pour leur chaleureux accueil. Vous faites renaître Radio Campus Paris et on vous en est très reconnaissant. À suivre à 20h sur l'antenne de Radio Campus Paris, MapMonde, ici même, demain, 18h30. Et jusqu'à 20h, Chablis Hebdo prend le relais avec André Manouchian aux commandes. Belle soirée, bon week-end à l'écoute du 93.9. My.